Bonjour Jean-Philippe, dans la presse ce matin, le cas d'un avocat.
Oui, et d'une situation qui peut sembler surprenante, paradoxale. L'histoire d'un avocat, donc, qui défend à la fois un terroriste et des victimes d'attentats. C'est le journal Ouest France qui dresse le portrait de Maître Christian Saint-Palais, pénaliste réputé de 58 ans, accent du Béarn, finesse d'esprit. Le voici donc dans deux procès particulièrement médiatisés. L'un a déjà commencé, celui des attentats du 13 novembre, où il représente l'un des accusés. L'autre débute demain, l'avocat défendra la famille du père Hamel, assassiné en 2016 dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Deux dossiers terroristes, dans deux salles du palais de justice de Paris, mais de part et d'autre du box. Maître Saint-Palais en convient, des questions peuvent se poser. Mais c'est l'essence même de son métier, apporter une défense et un conseil à toute personne confrontée à la justice. Pour le père Hamel, il parlera d'un homme de paix, le religieux, dont la tombe est devenue lieu de culte, nous apprend Paris-Normandie avec des autocars entiers, tandis que la croix rend visite à la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray, forcément ému, où l'on s'efforce de garder vivante la mémoire du père Jacques.
Vous nous parlez aussi, Jean-Philippe, d'un patron.
Ou plutôt ex-patron qui s'est fait la malle, au propre comme au figuré, fuyant le Japon pour le Liban. Il s'appelle Carlos Ghosn et il n'est pas content. Confidence explosive, nous promet le journal, avec l'ancien grand Manitou de Renault qui distribue les coups, balayant les accusations de non-déclaration de revenus, fustigeant ceux qui ne l'ont pas soutenu. Bruno Le Maire, particulièrement visé. Avec le temps, nous saurons pourquoi la France m'a lâché. Et n'allez pas lui parler de Renault, qui continue sans lui. Il vous décrira un ex numéro 1 mondial devenu petit constructeur fragile, aux résultats minables ou très médiocres. Oui, Carlos Ghosn a sorti la sulfateuse. On sent aussi la frustration de ne pas participer à cette révolution automobile, l'avènement de l'électrique. Bah là aussi, l'ex-patron y va franco. Parce que oui, en 2008, il se projetait déjà quand tout le monde était sceptique. Il n'y avait que moi, dit-il, moi et Elon Musk pour y croire. Musk, le fondateur de Tesla, rien que cela. Ambiance nettement plus feutrée, encore que dans ce vaste salon cossu, quelque part entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, fauteuil crapaud, velours profond, nous voici chez un ex, lui aussi, ex-premier ministre, Édouard Balladur, et dans le JDD. Sous la plume de Catherine Ney, les confidences d'un homme de 92 ans, le sourire en demi-lune, objet, paraît-il, de toutes les sollicitations. Zemmour, Pécresse et les autres, ils ont tous passé une tête chez ce personnage à la voix flûtée qui peut asséner sur un ton mezza voce les pires vacheries sur les uns et les autres. On l'entend d'ici, mais attention, Monsieur Balladur a aussi un certain recul, sensible au ridicule, dit-il. Je me garde bien de donner des conseils, je n'oublie pas que je ne suis pas arrivé au second tour en 95. En effet, Édouard Balladur n'aimait pas faire campagne et pas sûr qu'il soit fan de la une de Paris-Normandie. Nous voici les deux pieds dans la terre, sous une serre avec ces néo-ruraux, celles et ceux qui ont quitté la ville, Paris ou Le Havre, à la recherche de leur truc essentiel. Alors salut la vie de bureau et son lot de burn-out, et bonjour la permaculture et autres maraîchages sur sol vivant. C'est dur, mais je sais maintenant que je suis là où je dois être, vous dit Marie-Pierre. Dans cette France qui n'en finit plus de changer et que vous décrypte Jérôme Fourquet dans les pages de Sud-Ouest, le politologue de l'IFOP, pour qui la lutte des classes est remplacée par la lutte des places. Avant, la France économique, c'était celle des sites industriels, des lignes ferroviaires. Aujourd'hui, ce sont les entrepôts logistiques et les axes autoroutiers. Une France Amazon, où on livre à J+1, qui a comme cœur battant la consommation, le tourisme, les loisirs. Il y a les grandes métropoles dynamiques, les zones touristiques. Et puis, il y a la France moche, celle des zones rurales. Le paysage n'est plus le même, plus éclaté, plus repliés aussi sur nous-mêmes.
On termine cette revue de presse avec une valeur sûre.
Dessine-moi un mouton, Eric. Le Petit Prince, on connaît tous. Le Petit Prince qui apparaît soudain et nous fait du bien dans les pages du JDD et du Parisien. Aquarelle, dessin, il faut dire que l'événement est majeur. C'est la toute première fois que le manuscrit de Saint-Exupéry arrive sur le sol français. Exposition à partir de la semaine prochaine au Musée des Arts Décoratifs de Paris. exceptionnellement. Le Petit Prince va donc quitter sa bibliothèque de New York, une partie du trésor, les États-Unis, là où Saint-Ex avait écrit cette étrange histoire, là où elle fut publiée pour la première fois en avril 43. Aujourd'hui, on redécouvre les traits de crayon, tantôt légers, tantôt inquiets. Une écriture raturée de partout, nous dit le Parisien, pire que celle d'un médecin. Tandis que dans le JDD, le responsable de la succession vous raconte cet épisode à peine croyable. Un soir à Saint-Pétersbourg, il a vu Vladimir Poutine en personne réciter par cœur tout un passage du Petit Prince. « Je suis sûr que ce livre peut aider à la diplomatie », dit-il. Alors avec le renard, la rose, le baobab et la voix de Gérard Philippe, on aimerait y croire juste un peu.
La voix de Gérard Philippe et la voix flûtée, dites-vous, d'Edouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter, Jean-Philippe Ballas.